Les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 15h à Nouakchott, 16h à Libreville. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. On commence par l'actualité américaine. Le président Donald Trump visite ce mercredi la région du sud-est des États-Unis ravagée par l'ouragan Florence. Sa première étape, la Caroline du Nord, où il est actuellement à la base militaire de Cherry Point. L'ouragan Florence a dévasté la semaine dernière non seulement la Caroline du Nord, mais aussi la Caroline du Sud et une partie de la Virginie. Bilan près de 40 morts, dont plusieurs enfants, et des dommages qui pourraient atteindre des milliards de dollars. Beaucoup de rivières ont débordé et n'ont pas encore atteint leur pic de crue jusqu'à présent, d'où des inondations dans plusieurs régions. Afrique maintenant, au Cameroun, la campagne électorale pour la présidentielle du 7 octobre commence samedi. 9 candidats briguent la magistrature suprême, dont le président sortant Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 1982. Dans un communiqué daté de mardi, 5 candidats de l'opposition accusent les médias d'État de privilégier le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, et les informations relatives au président Biya qui cherche un sixième mandat. Les protestataires évoquent à ce propos une récente note de la télévision camerounaise, CRTV, selon laquelle sur 13 équipes de reportage poursuivent les 9 candidats à l'élection présidentielle, 5 ont été dédiés au candidat Paul Biya et à son équipe de campagne. La note de protestation est signée par le SDF, le Social Democratic Front, principal parti d'opposition, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de l'opposant Maurice Kamto, le parti NAR de l'avocat Akire Mouna, et ainsi que les formations de Cabral Libi et Serge Espoir Matomba, deux jeunes candidats à la présidentielle. Politique en RDC, le processus électoral en RDC aborde sa dernière ligne droite avec la publication ce mercredi de la liste définitive des candidats à la présidence qui doit officialiser l'exclusion de deux poids lourds de l'opposition, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, de la course à la magistrature suprême. Deux autres opposants, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, plus le dauphin du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Chadari, sont les principales personnalités dans cette liste d'une vingtaine de noms que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, doit publier dans la journée à 94 jours du scrutin. Cette publication ouvre la voie à la campagne électorale à partir du 22 novembre, puis aux élections présidentielles, législatives et provinciales prévues le 23 décembre 2018 pour désigner le successeur du président Joseph Kabila, qui ne peut plus constitutionnellement se représenter.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Angola, le président angolais João Lourenço et le premier ministre portugais Antonio Costa ont tourné mardi la page de plusieurs années de tensions entre leurs deux pays en promettant de relancer la coopération économique bilatérale. Les précisions d'Irénée Herman Ongo.
La rencontre a permis de faire prévaloir le bon sens, le pragmatisme et le sens de l'État pour que les relations entre les deux pays en sortent renforcées, a indiqué João Lourenço à sa sortie d'un tête-à-tête avec Antonio Costa. Monsieur Costa, de son côté, a souhaité le développement du partenariat économique et financier entre les deux pays sur une base égale où chacun contribue à la richesse de l'autre. Très liés économiquement, Luanda et Lisbonne étaient en froid depuis l'ouverture d'une enquête pour corruption visant des dirigeants angolais dont l'ancien vice-président Manuel Vicente. La décision du Portugal de le juger sur son territoire avait provoqué la colère de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, qui a régné sans partage sur son pays de 1979 à 2017. Les liens entre les deux pays se sont réchauffés depuis la décision de transférer à Luanda le procès de M. Vicente, comme le souhaitait l'Angola. Le président João Lourenço et le premier ministre Antonio Costa ont marqué la fin de la brouille entre leurs pays en signant un nouvel accord de coopération stratégique bilatérale pour la période 2018-2022.
Conflit au Soudan du Sud, le chef de la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, a déploré ce mercredi ce qu'il a appelé le climat de suspicion entre les parties ayant signé un accord de paix le 12 septembre. David Shearer regrette qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise par les ex-belligérants pour appliquer l'accord en question. Ceux qui ont signé le document par le passé étaient amis et ennemis. Et il transparaît dans nos discussions avec eux qu'il y a encore beaucoup de suspicions, a souligné le chef de la MINUS lors d'une conférence de presse à Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et maintenant,